montrait que cette opposition est construite par les modernes et qu'elle n'avait pratiquement pas de sens pour les anciens. Si les temples où l'on pratique l'incubation sont des temples d'Asclépios, il ne faut pas oublier que la médecine hippocratique se réclame d'Asclépios et que les médecins hippocratiques s'appellent eux-mêmes les Asclépiates de Cos. D'autre part, on verra comment justement les rêves jouent un rôle important à la fois dans les sanctuaires où ils sont un moyen de cure, mais aussi dans la médecine rationnelle, où ils deviennent, dans le traité du régime, un élément privilégié permettant d'établir un diagnostic avant même que des symptômes réels se soient manifestés dans les faits.
Alors, le temple d'Épidaure, c'est un lieu de médecine magique qui soignait par incubation.
Il y avait dans le temple, près de l'autel et près d'une fontaine, un portique où les malades allaient dormir pendant la nuit, après avoir pris un bain et très probablement après avoir fait des sacrifices. Et pendant la nuit, le dieu leur apparaissait. À l'époque apparemment la plus ancienne, le dieu pratiquait la cure dans le rêve même, c'est-à-dire que le malade se réveillait guéri et partait. Et à époque plus tardive, le dieu soignait en quelque sorte par ordonnance, c'est-à-dire qu'il prescrivait au malade un certain nombre de choses à faire, que celui-ci accomplissait de jour, et il se trouvait ensuite guéri.
C'est le dieu qui apparaît toujours dans ce rêve comme une espèce de médecin.
Oui, mais le dieu peut apparaître sous des formes diverses. Il a aussi des déguisements, c'est-à-dire qu'il peut apparaître sous les traits d'un beau jeune homme, et une fois aussi, sous les traits d'un homme de belle apparence. Il est quelquefois seul, mais il est quelquefois aussi accompagné d'aides qui interviendront dans les opérations. Il peut apparaître aussi sous la forme des animaux qu'il représente, c'est-à-dire sous la forme d'un serpent ou accompagné d'un serpent. Et ce dieu apparaît dans le rêve en général au malade lui-même, mais il arrive aussi qu'on puisse rêver par procuration, c'est-à-dire que quand le malade était incapable de se déplacer, il envoyait quelqu'un au sanctuaire qui avait pour lui un rêve incubatoire. Et on précise d'ailleurs que le malade qui était resté chez lui avait le rêve en même temps.
C'est très souvent la mère qui va rêver à la place de la fille.
C'est cela, on en a un exemple.
Finalement, dans ces rêves-là, on peut dire qu'il existe à la fois des rêves messages et des rêves images. Est-ce qu'on retrouve aussi cette opposition que nous avons rencontrée ailleurs?
Bien sûr. On trouve des rêves messages où le dieu donne un ordre et se manifeste uniquement par un discours. Mais il y a aussi des scènes qui sont tantôt des scènes muettes, où le dieu se livre à un certain nombre d'opérations sans parler, tantôt des scènes parlantes. Donc on retrouve bien la distinction entre des rêves-messages et des rêves-images.
Alors ces rêves se rencontrent inscrits sur des tablettes votives que les gens offraient pour remercier le dieu pour une guérison.
Certainement, et ce sont ces tablettes qui témoignent très clairement d'un effort de propagande des prêtres d'Épidaure.
C'est-à-dire que tous les rêves n'ont pas un caractère médical.
D'abord, tous les rêves n'ont pas un caractère médical. Le dieu était un espèce de mélange, si vous voulez, de guérisseur miraculeux, de saint Antoine de Padoue. On vient le voir quand on a perdu quelque chose. Par exemple, un bonhomme qui ne sait plus comment retrouver son fils, eh bien, il vient rêver et le dieu lui dit « tu le trouveras sous un rocher ». Et le dieu est aussi un saint Christophe, c'est-à-dire quelqu'un qui assure des voyages favorables en mer.
Qui venait consulter et pourquoi?
Oh, c'est assez amusant. D'abord parce que on constate que il y a une très nette prédominance des hommes sur une soixantaine de tablettes. Il y a 35 hommes, 14 femmes et 6 enfants. Je crois que ça ne veut pas dire du tout que les femmes étaient beaucoup plus solides que les hommes dans l'Antiquité, mais très probablement que leur santé avait beaucoup moins d'importance, comme d'ailleurs celle des enfants. D'autre part, si on regarde les maladies qui étaient censées relever du dieu, on s'aperçoit que pour les femmes, c'est essentiellement le problème de la stérilité. Et ce qui est intéressant sociologiquement, on s'aperçoit que toutes ces femmes stériles, une fois guéries par le dieu, accouchent tous de ce qui est pour les Grecs l'enfant par excellence, c'est-à-dire un garçon. Et pour les autres maladies, on peut citer essentiellement la cécité et la paralysie, mais le dieu ne dédaigne pas de rendre des petits services. Par exemple, on le trouve en train de débarrasser quelqu'un de ses poux, ou bien de soigner quelqu'un d'une calvitie qui le rendait ridicule.
Il y a cette histoire de stérilité, mais il y a aussi l'histoire de la femme enceinte qui oublie de demander au Dieu de mettre au monde son enfant.
Oui, alors ça, c'est un moyen, je crois, de montrer la préscience du Dieu et d'indiquer au consultant qu'il faut absolument être précis dans les demandes qu'on lui fait. Car c'est parce que la femme a seulement demandé d'être enceinte, mais qu'elle a oublié de demander une délivrance, qu'elle se trouve en quelque sorte coincée dans une grossesse qui n'a pas de fin, jusqu'au moment où elle se décide à consulter le Dieu de nouveau et qu'elle se trouve alors guérie.
Puis il y a cette histoire de la femme hydropique.
Alors là, on aborde les problèmes des traitements, c'est-à-dire comment le dieu d'Épidaure traitait-il ses malades.
C'est-à-dire le dieu apparaît et il établit un diagnostic.
Non seulement il établit un diagnostic, mais il soigne. C'est un merveilleux chirurgien dont les opérations dépassent en audace absolument toutes celles qu'on pouvait pratiquer dans l'Antiquité. Alors l'exemple de la femme hydropique que vous citez est en effet très amusant. En rêve, le dieu lui coupe la tête. La tient par les pieds, donc il vide ainsi le récipient en quelque sorte de son eau, puis on recoue la tête et la dame se relève sans le moindre problème, guérie de son hydropisie.
Il y a d'autres types de guérisons, je suppose, même miraculeuses.
Oui, alors le dieu est aussi, si vous voulez toujours pour rester un peu d'abord dans le cadre de la médecine rationnelle, c'est aussi un pharmacien, c'est-à-dire quelqu'un qui soigne en appliquant des pharmacas, des drogues, sur des ulcères ou des abcès. Mais il y a aussi des guérisons, je dirais, proprement miraculeuses, c'est-à-dire d'abord par le toucher du Dieu, la main du Dieu est une main guérisseuse, et quelquefois même par la parole.
Le problème qui se pose vraiment, c'est d'abord de savoir si ces rêves ont un rapport avec les traitements réels de la médecine rationnelle, et le problème, toute la question du rapport entre le rêve et la réalité.
Pour la première question, la réponse est assez facile, parce que il est clair que ces rêves apparaissent comme une sorte d'hyperbole de la médecine rationnelle. Les médecins grecs opéraient, mais aucun d'eux ne se livrait aux opérations extraordinaires que pratique le dieu. De la même façon, ils se servaient de drogue, mais elles n'avaient pas cette rapidité d'efficacité. Donc, d'une certaine manière, le dieu ne fait qu'appliquer un même type de traitement, mais en multipliant l'efficacité. Quant au problème du rapport rêve-réalité, c'est probablement la question la plus intéressante que posent ces inscriptions. Car en effet, plusieurs d'entre elles font mention de ce que les psychanalystes appelleraient des restes ou des apports. Par exemple, un dieu pratique des opérations, il retire une pointe de lance. Eh bien, le bonhomme guéri s'en va le lendemain matin en brandissant sa pointe dans la main. Une femme a des sangsues, le dieu la guérit, le lendemain, elle s'en va en emportant ses sangsues. Voilà le texte. Un homme de Torone avec des sangsues. Celui-ci, alors qu'il dormait dans le portique d'incubation, eut un rêve. Il lui sembla que le dieu, incisant son thorax avec un couteau, enlevait les sangsues, les lui mettait dans la main et recousait sa poitrine. Quand il fit jour, il sortit en tenant dans ses mains les bêtes et il fut guéri. Il les avait bues, trompé par sa belle-mère qui les avait jetées dans sa soupe alors qu'il buvait. Voyez bien que toute l'histoire y est, avec le petit côté antiféministe ou satire populaire sur les rapports entre gendre et belle-mère, mais en même temps aussi, il y a ce fameux reste, les sangsues que l'on transporte. Souvent même, il semble que dans certains rêves d'Épidaure, au moins dans un, la frontière entre le rêve et la réalité s'efface totalement, puisqu'on voit une opération commencer en rêve, s'interrompre avec un corps d'ailleurs complètement désarticulé pendant la journée, pour reprendre sans problème la nuit d'après et le rêve suivant. Alors je vais la lire. Aristagorate Trézène. Celle-ci, comme elle avait des vers dans le ventre, vint dormir dans le portique d'incubation à Trézène, dans l'enceinte sacrée d'Asclépios, et elle eut un rêve. Il lui semblait que les fils du dieu, comme lui-même ne se trouvait pas présent, mais se trouvait à Épidaure, lui coupaient la tête. Incapables de la remettre à nouveau, ils envoyèrent quelqu'un chez Asclépios afin qu'il vienne. Entre-temps, le jour se lève et le prêtre voit, à l'état de veille, que la tête est séparée du corps. La nuit suivante, Aristagora eut un songe. Il lui semblait que le dieu revenait d'Épidaure, remettait sa tête sur sa gorge, après cela, incisait le ventre, enlever les vers et le recouser. Et à la suite de cela, elle fut guérie. On voit ici que le rêve sert la lutte d'influence entre les sanctuaires, car il vise très clairement à démontrer la supériorité du sanctuaire d'Asclépios à Épidaure sur tous les autres, puisque les gens de Trézène ne sont pas du tout capables de réussir l'opération.
Il serait intéressant de comparer ces rêves qui se rencontrent dans les inscriptions des tablettes votives d'Épidore avec la médecine rationnelle, avec Hippocrate et son traité du régime notamment, puisque dans le livre 4, nous avons un traité qui établit des rapports entre le rêve et les moyens de diagnostic.
Oui, le rêve en effet apparaît comme un moyen privilégié de diagnostic. Et cette utilisation du rêve est fondée sur une véritable théorie des rapports de l'âme et du corps. C'est-à-dire que pour l'auteur de ce traité, l'âme en état de veille se disperse en quelque sorte à travers le corps et elle est mobilisée par le monde extérieur pour assurer à la fois les perceptions et les actions du corps. Par contre, pendant la nuit, il n'y a plus de perception ni d'action. À ce moment-là, l'âme peut concentrer toute son énergie sur ce qui est sa demeure propre, le corps, et elle devient beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe. Ce qui explique que le rêve puisse apparaître comme reflétant l'équilibre ou le déséquilibre du corps. Mais d'ailleurs, pas seulement du corps, mais aussi de l'esprit. On a en effet au moins un cas dans le traité du régime où un rêve est censé révéler un trouble de l'âme et on nous indique d'ailleurs le traitement à suivre.
Hippocrate explique aussi qu'il y a deux sortes de songes, des songes divins qui ne l'intéressent pas et puis des songes analysables comme diagnostic.
Oui, et c'est exactement ce que feront d'ailleurs aussi les onéirocrites, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire quelqu'un comme Artémidore dira lui aussi, il y a des songes qui traduisent l'état du corps ou l'état de l'âme, cela ne m'intéresse pas du tout, et puis il y a des songes divins qui prévoient l'avenir, et c'est de cela seul que je m'occupe.
C'est un texte qui se situe dans le cadre d'une théorie générale du rêve comme moyen de diagnostic, c'est un peu l'illustration.
Oui, et c'est surtout un texte qui montre que l'âme dans le sommeil ne dit pas seulement les maux du corps, mais elle peut aussi dire les soucis qui l'affectent elle-même. Si en effet un astre erre ça et là, sans nécessité, cela indique un trouble de l'âme provenant des soucis. Le mot grec pour dire souci est merimna, et on s'aperçoit que beaucoup plus tard, toujours dans Artémidore, les onéirocrites reconnaîtront une catégorie particulière de songes qu'ils appelleront les songes merimnématiques, c'est-à-dire ceux précisément où l'âme dit en quelque sorte en rêve ses propres soucis. Et on propose un traitement, disons psychique, il est utile au patient de se reposer, de se tourner l'âme vers des spectacles surtout comiques, sinon vers des spectacles qui le réjouiront le plus, pendant 2 ou 3 jours, et il se remettra. Sinon, il y a danger de tomber malade. Ce qui est intéressant, car c'est un texte qui semble prouver que pour les anciens, il y avait une conscience très claire des maladies psychosomatiques.
Donc finalement, avec Hippocrate, nous avons affaire à une rationalisation de la vie onirique par la médecine rationnelle qui continue d'utiliser le rêve comme un symptôme à partir duquel il prescrit des régimes.
Oui, il y a même un cadre parfaitement stéréotypé. Chaque fois, on nous dit le rêve, on nous indique s'il signifie santé ou maladie, on nous donne le détail du traitement, c'est-à-dire essentiellement des prescriptions alimentaires, des prescriptions concernant le régime. Alors, ce qui est peut-être intéressant à signaler, c'est que parmi ces rêves, ceux auxquels le traité s'intéresse le plus, ce sont les rêves qui mettent en scène des astres. Et ceci repose, encore une fois, sur une théorie, sinon scientifique, du moins qui a des prétentions de l'être, c'est-à-dire sur les rapports du macrocosme et du microcosme. C'est l'idée que l'univers et les astres correspondent exactement à certaines parties du corps. Par exemple, on expliquera qu'il y a des circuits dans le corps et des circuits dans le ciel. Et les uns disent en quelque sorte les autres. On dira par exemple que le ventre ressemble à la mer. Donc, si on voit la mer agitée avec des tempêtes, eh bien, on en déduira que ce qui se prépare, ce sont des maux de ventre qu'on soignera de telle ou telle manière.
Donc, on fait appel à une sorte de raisonnement par analogie.
Oui, le raisonnement par analogie étant d'ailleurs le fondement même de toute l'interprétation des rêves dans l'Antiquité, comme on le verra beaucoup plus clairement avec Artémidore. Il faut voir que l'interprétation des rêves, telle qu'elle se présente dans le traité hippocratique, est extrêmement peu sophistiquée. C'est-à-dire que tout signe a un sens et un seul. tandis que ce qui caractérisera Artemidore, c'est qu'on verra intervenir le contexte, c'est-à-dire la situation du rêveur, et que tel signe signifiera ceci pour tel type de rêveur, tel autre pour tel autre type. Au contraire, on n'a jamais de distinction de cet ordre dans le corpus hippocratique.
Artemidore était un interprète de rêves professionnels qui vivait au second siècle après Jésus-Christ, et son œuvre, qui est un traité en 5 livres, est bien autre chose que ce que pourrait donner à penser le titre de la traduction française, La clé des songes. C'est bien autre chose qu'une clé des songes, et il occupe une place unique entre les clés de songes orientales et les pauvres lexiques de rêves d'époque byzantine. C'est en effet le seul traité rédigé par un professionnel, un praticien, qui s'occupe sans cesse, comme il le dit lui-même, nuit et jour de l'interprétation des songes, et qui ne se borne pas à exposer son interprétation du contenu des rêves, selon un ordre raisonné, mais donne également les éléments d'une méthode complexe de déchiffrement des rêves et des signes du rêve.
Et vous dites qu'il exploitait un fond oriental, et je crois aussi c'est mythique.
Nous ne savons pas tellement quelles sont les sources d'Artemidore. Il est possible qu'il ait eu connaissance de clés des songes orientales. En tout cas, sa méthode peut être rapprochée à bien des égards des pratiques de clés des songes orientales.
Alors la clé des songes d'Artemidore a au moins une double postérité. Elle survit dans la clé des songes moderne, et puis Freud lui fait un sort dans sa Traumdeutung.
Oui, Freud rend hommage à la méthode d'analyse d'Artemidore dans sa Traumdeutung. Il faut dire à propos des clés des songes modernes qu'elles sont toutes plus ou moins issues du texte d'Artemidore, mais traduites et adaptées de telle sorte qu'on ne reconnaît plus grand-chose du traité et qu'on n'y voit plus qu'un morne catalogue de symboles, alors que l'œuvre d'Artemidore présente une méthode raisonnée et systématique de déchiffrement des rêves.
Alors si je comprends bien, Freud lui-même avait accès à une traduction qui n'était pas bonne.
Oui, Freud avait, je crois, eu connaissance d'une traduction allemande de la fin du 19e où l'auteur avait censuré les passages trop obscènes d'Artemidore, en particulier tout ce qui concernait les relations sexuelles.
Alors on retrouvera peut-être un des rêves que Freud mentionne un peu plus tard, mais pour commencer, quels sont les principes théoriques posés au départ par ce devin ?
Artemidore veut d'abord défendre la divination contre ceux qui l'attaquent, tout en se démarquant soigneusement des charlatans de tout poil qui la pratiquent, en particulier les astrologues. Et contrairement à une idée populaire très répandue chez les Grecs, Artemidore refuse de tenir compte, par exemple, de l'heure à laquelle on fait un rêve pour procéder à l'interprétation. Artemidore définit d'abord le champ d'action de l'onirocrite en distinguant 2 sortes de rêves, ce qu'il appelle l'énupnion, qui traduit simplement l'état présent du corps ou de l'âme, crainte, désir. On peut appeler ce type de rêve rêve symptôme ou rêve désir. Ce rêve ne traduit que le présent du rêveur et, comme tel, n'intéresse pas du tout Artemidore.
Quels sont les rêves qu'on rencontre, par exemple, chez Hippocrate ? Dans le traité du régime.
Par exemple, ou que l'on rencontre aussi chez les romanciers grecs. L'autre sorte de rêve, l'onéiros, est prophétique, et c'est lui qui constitue l'objet de l'interprétation. Il dit ce qui est, to on eirei, dit Artemidore en jouant sur le mot onéiros. Et parmi ces songes prophétiques, il distingue les rêves théorématiques, dont l'accomplissement ressemble à la vision du rêve. Le rêve est transparent, si l'on veut, et ces rêves ont un accomplissement immédiat. En revanche, le rêve allégorique fait voir autre chose. C'est, dit Artemidore, l'âme qui, selon certaines lois naturelles, laisse entendre obscurément un événement. Dans ce cas, l'accomplissement n'est pas immédiat, et c'est là, pour ces rêves allégoriques, qu'intervient l'interprète.
Je pense aussi qu'il était nécessaire pour lui d'éviter les interférences entre rêve désir et rêve prophétique.
Oui, c'est très important pour lui et c'est la raison pour laquelle il demande à l'interprète de bien connaître jusqu'aux mœurs sexuelles du rêveur, de manière à ne pas prendre pour un rêve prophétique, pour un onéiros, ce qui n'est chez le rêveur que le signe d'une obsession personnelle. À la différence de certains de ses confrères dont il se démarque, il souligne avec force que la forme et le contenu même du rêve sont directement liés à la personnalité du rêveur. Par exemple, les gens vertueux feront plutôt des rêves théorématiques, des rêves limpides, étant donné que leur âme est apaisée. Ainsi, les gens ignorants ne peuvent faire des rêves cultivés. Artémidore voit d'ailleurs là la preuve que les rêves sont œuvres de l'âme et ne viennent pas d'une cause extérieure. Ce qui implique que l'onirocrite saura être lui-même suffisamment cultivé pour comprendre les rêves cultivés faits par certains rêveurs.
Et d'autre part, la situation sociale aussi, le métier du rêveur est très important pour Artémidore.
Oui, pour bien interpréter un rêve, l'onirocrite doit connaître le rêveur et tout son contexte, savoir qui est celui qui a fait le songe, quel est son métier, quelle a été sa naissance, ce qu'il a de fortune, quel est son état corporel et à quel âge il est arrivé. Et l'onirocrite devra même connaître les coutumes de la cité où habite son rêveur, qui ne sont peut-être pas forcément les mêmes que celles de sa propre cité. Il sera donc un petit peu ethnologue pour ne pas risquer des erreurs d'interprétation. Et par ailleurs, l'onirocrite devra examiner le rêve dans tous ses détails, sans rien négliger, car toute l'interprétation est suspendu à ces détails, et si le rêve est complexe, il faudra décomposer ces éléments pour les interpréter un à un avant de trouver une interprétation d'ensemble.
Et Artémidore était très ferme sur ses positions puisqu'il se démarquait des onirocrites contemporains qui ne tenaient pas assez compte de la subjectivité.
Oui, Artémidore insiste beaucoup sur la prise en compte du contexte et d'ailleurs il met en garde contre la tentation de répéter une interprétation donnée par un prédécesseur pour un rêve, car le rêveur n'est pas le même. Ainsi, il évoque le rêve de l'homme qui se voit transformé en pont. Il est devenu un passeur. Mais il faut se garder de répéter à tous les coups ce genre d'interprétation. Ce rêve aura une toute autre signification si c'est un homme riche, si c'est une femme ou si c'est un jeune homme qui fait le rêve.
Un homme rêva qu'il était devenu un pont. Il devint un passeur. Il jouait de fait le même rôle qu'un pont. Phébus, donc, enregistre ce rêve, mais voici qu'un homme riche, qui avait eu ce songe, fut méprisé de beaucoup et comme foulé aux pieds. Au surplus, ce même rêve pourrait bien advenir aussi à une femme et à un beau garçon, et il se ferait prostituer. Et beaucoup de gens leur passeront dessus. Ou encore, un homme en procès aurait le dessus sur ses adversaires et sur le juge même, car il y a analogie entre fleuve et juge du fait que le juge agit à sa guise sans avoir de compte à rendre. Or, le pont est au-dessus du fleuve.
Alors, il est un rêve qui mérite une étude à part, c'est le rêve oedipien dont l'interprétation est particulièrement complexe.
Oui, ce rêve d'inceste avec la mère occupe une place importante dans le chapitre d'Artémidore consacré aux relations sexuelles. Il va de soi, puisqu'il s'agit d'un rêve prophétique, que le rêve signifie autre chose que l'expression d'un désir. Et Artémidore fait là une analyse minutieuse qui montre qu'il prend en considération une quantité de paramètres tout à fait étonnante. D'abord, il examine le texte et tous ses éléments. D'abord, la position dans laquelle a lieu cette union avec la mère. Et il énumère toutes les positions possibles en allant de ce qu'il considère comme le plus normal à la position la plus aberrante. C'est en effet une règle générale de l'onirocritique qu'Artémidore partage avec ses devanciers, que ce qui est conforme à la loi, à la nature et à la coutume est plutôt de bon augure, alors que le contraire est funeste. Donc, cette position et sa normalité va permettre de donner une interprétation positive ou négative. De plus, il faudra tenir compte de l'état de la mère dans le rêve. Est-elle vivante ou morte? De l'état du rêveur, prend-il du plaisir ou non à cette union? Et la mère est-elle ou non consentante? Une fois qu'on a examiné tous ces éléments du texte du rêve, il faudra examiner l'importance du contexte réel. L'état du père du rêveur est-il malade ou bien portant? La situation géographique de la mère est-elle dans la patrie ou non? La situation matérielle de la mère est-elle riche ou non? Le contexte personnel du rêveur, quel est son métier? Est-il ou non un artisan manuel? Est-il ou non un homme politique? Est-il pauvre ou riche? Est-il malade ou non? Est-il en procès? Est-il dans sa patrie ou en voyage?
Par exemple, il est un homme politique, la mère c'est qui?
La mère c'est la patrie. Selon les cas, la mère peut désigner soit le métier du rêveur, soit la terre, soit la patrie, soit la nature. Le choix de l'analogie est dicté par le contexte personnel du rêveur.
Et quand les positions sont tout à fait contraires à la nature,
ça devient tout à fait inquiétant et c'est généralement signe de destruction, de bien ou de mort pour le rêveur.
Alors l'examen de ces types de rêves montre qu'il peut y avoir des réalisations différentes.
Oui, et Artémidore montre même qu'un rêve fait à intervalles suffisamment longs par une même personne peut avoir des accomplissements différents, comme le rêve de l'homme qui n'a plus de nez, qui comporte plusieurs réalisations différentes à différents moments de la vie du rêveur.
Quelqu'un a rêvé qu'il avait perdu son nez. Or, il se trouvait être marchand de parfums. Il a perdu son fonds de parfums et a cessé d'en vendre du fait qu'il n'a plus de nez. Car privé désormais de l'organe contrôleur, il ne saurait plus normalement faire le commerce de parfums. Le même, ayant cessé son commerce, a rêvé qu'il n'avait plus de nez. Il a été pris en flagrant délit de fausse écriture et a fui sa patrie, car un manque dans le visage déshonore celui-ci, et le visage est le symbole de l'honneur et de la jouissance des droits civils. C'est donc à bon droit aussi que cet homme a perdu ses droits civils. Le même, étant tombé malade, a rêvé qu'il n'avait plus de nez et peu après, il est mort, car les crânes des morts n'ont pas de nez. Et ainsi, le même rêve, pour le même individu, a eu trois fois un accomplissement différent.
Ce qui est peut-être le plus intéressant pour nous, dans cette loi d'analogie ou de ressemblance, c'est quand elle joue sur le terrain du langage. Quand l'interprète exploite les homonymies, les différents sens du même mot ou les assonances. La psychanalyse nous a habitués à une certaine familiarité avec ce type de jeu de mots, de langage, et c'est une dimension très importante dans le traité d'Artémidore qu'on a souvent négligé parce que les traductions ne tenaient pas compte de ces jeux sur le signifiant.
Et là on retrouve un des rêves auxquels Freud fait allusion, le fameux rêve qu'aurait fait Alexandre de Macédoine.
Oui, ce rêve qui est fréquemment cité pour sa difficulté d'interprétation par Artémidore, Alexandre aurait vu en rêve un satyre, Satyros, que son interprète aurait très habilement interprété comme Satyros, c'est-à-dire Tyr est à toi, et comme prophétisant la prise de Tyr par Alexandre. On retrouve un certain nombre d'exemples du même type chez Artémidore, d'exemples où le rêve joue sur le signifiant. Par exemple, le rêve de l'athlète qui est engrossé et donne naissance à deux petites filles noires. L'accomplissement, c'est qu'il devient aveugle et ses pupilles noircissent. Le grec joue sur le double sens de choré, qui signifie à la fois la jeune fille et la pupille. Dans le même ordre d'idée, on peut évoquer le rêve de l'homme qui voit un javelot le blesser au pied. Le javelot, c'est Acontion, et en réalité, il est mordu par un serpent appelé Acontias. Artémidore conseille d'ailleurs de se servir de l'étymologie des mots, et même du sens des noms propres, qui qui peut infléchir l'interprétation des rêves dans une direction ou dans une autre. Par exemple, tenir compte du fait que le nom propre Ménon signifie celui qui reste.
Le rêve de l'aigle est lui aussi un exemple qui montre comment Artémidore décompose les différents éléments.
Oui, ce rêve qui ressemble d'ailleurs beaucoup à un présage, met en place plusieurs types d'analogies. Et on voit comment l'interprète prend successivement les différents éléments, les entrailles, le transport au théâtre, l'aigle, pour ensuite donner une signification globale au rêve. Le rêveur aura un fils célèbre. Et à côté du jeu métaphorique, le jeu de figuration, on observe le jeu sur le langage. Car le nom de l'aigle, Aethos, est décomposé par Artémidore en Aethos, c'est-à-dire une année. Le rêve indique en même temps le temps de réalisation du rêve, c'est l'année suivante que le rêveur aura ce fils.
C'était le rêve dans l'Antiquité par Gérard Gromaire avec la participation de Daniel Auger.